Nous vous proposons à présent une conférence du cycle Passeur d'Hommes, conférence enregistrée au Christ-Roi à Toulouse le 10 septembre avec Bruno de Saint-Chamas et sur le thème « Finalité de l'homme et ordre social ». Bonne écoute.
Cette première séance, elle a pour objet de nous faire prendre conscience de la réalité d'une difficulté dans lequel nous sommes aujourd'hui, et de cette nécessité pour chacun de nous de réussir à être un passeur d'hommes. Alors pourquoi est-ce qu'on emploie cette expression? C'est une expression de montagnard. Vous voyez ce beau paysage, ceux qui connaissent la montagne, ou ceux qui la voient, nous voyons que l'enjeu, c'est de passer et d'emmener des hommes vers la liberté. D'abord soi-même, et puis toutes les personnes dont on a la responsabilité. Et dont on a la responsabilité dans des sociétés, dans la famille, au travail, dans sa ville, dans une association, dans sa paroisse. Autant d'endroits où nous nous retrouvons avec une responsabilité vis-à-vis des autres personnes. Je dois vous avouer que jeune ingénieur, j'avais été formé pour comprendre les choses. Et quand j'ai été nommé dans mon premier job, comme on dit, on m'a confié une équipe. Parce que je savais comment fonctionnaient les choses, on m'a donné des responsabilités sur des personnes. Et je me suis dit, j'ai découvert que ce n'était pas du tout pareil. Et que l'autorité qu'on pouvait avoir sur les choses, ce n'était pas du tout la même réalité quand il fallait commander des personnes. C'est ce qui a fait que je me suis passionné pour ce sujet. Et j'ai découvert que finalement, des parents ont cette question. Partout dans l'entreprise, on a ce sujet. Si on est médecin, si on est éducateur, si on est professeur, si on anime une association, etc., on se retrouve face à cette question, j'ai une responsabilité vis-à-vis des autres et je dois les emmener. Alors quand on fait une promenade en montagne comme ça, on a une cible, on veut passer, on veut aller en haut, on a un but. Donc on va parler de ce but. Et puisqu'on s'intéresse à l'homme, ça sera la finalité de l'homme. Et on ne fait jamais cette ascension tout seul. On est dans une équipe, on est dans une cordée. On est dans une société, on est même dans des sociétés. Nous allons nous intéresser donc au fonctionnement de ces sociétés. Et comme c'est une grande aventure, eh bien je vous propose de démarrer en disant qu'est-ce qu'on va prendre dans son sac, le minimum vital pour survivre et faire cette ascension. Et comme c'est une ascension, je vous préviens, ce minimum vital, il va être minimum. Mais il va être très concentré. Ça va être le moment difficile de mon intervention. On ne va pas avoir peur de se poser des questions, même philosophiques, sur l'être des choses. Donc, le bagage, minimum, la cible, l'accorder. Ce sont mes trois points pour ce soir. Ça vous va ? Tout ça pour un passeur d'hommes. Alors, le bagage minimum. J'ai trouvé 4 points que je voudrais vraiment que nous puissions partager, que nous puissions comprendre. Ça n'est pas très grave si tout n'est pas lumineux aujourd'hui, parce que vous allez voir, le parcours va finir d'éclairer ces 4 notions. Ce sont des notions fondamentales. Ce sont des notions fondamentales. La première, les quatre causes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Nous allons nous intéresser à la raison d'être des sociétés. Aristote, vous voyez qui c'est Aristote, le philosophe grec, lui a défini 4 causes. 4 causes. Alors, une première cause qu'il appelle matérielle. une deuxième cause qu'il appelle formelle, une troisième instrumentale, une quatrième finale. Je vous le dis comme ça pour que ça fasse bien philosophique et abstrait. Mais Aristote est beaucoup plus pédagogue et je vous le raconte parce que peut-être que ça vous donnera le goût d'aller lire les textes mêmes d'Aristote. L'intérêt d'Aristote, c'est que c'est 400 ou 500 ans avant Jésus-Christ, que c'est une réflexion fondée sur la raison, et donc qu'on ne peut pas nous objecter que notre foi vient, vous voyez, interférer avec cette sagesse. C'est vraiment une sagesse de quelqu'un qui s'intéresse à la réalité des choses, et donc qui est tout à fait opposable dans notre culture d'aujourd'hui, quoique. Alors voilà ce que dit Aristote. Il raconte une histoire. C'est un sculpteur qui a la commande d'une statue qui est faite par un de ses amis qui s'appelle Phidias. Le sculpteur s'appelle Praxitèle. Le modèle de la statue, c'est Apollon. Et la statue est en marbre. Alors il s'interroge sur l'être de cette statue. Et il dit, cette statue, elle va exister, elle existe, elle a quatre causes. Quatre causes bien différentes. Une cause matérielle, c'est le marbre dont est fait la statue. D'accord ? Une cause formelle, c'est la forme d'Apollon. Ça n'est pas la statue d'un cheval, c'est la statue d'un dieu. Elle a une forme. Et puis elle a une cause instrumentale, c'est le travail du sculpteur, c'est le sculpteur lui-même qui se met à tailler la pierre. Et enfin, elle a une cause finale, et on l'appelle finale parce que elle est en même temps première, ça c'est une notion très importante, c'est le fait que Phidias a commandé la statue. S'il n'y avait pas eu Phidias, il n'y aurait pas eu de statue. S'il y avait eu personne pour passer la commande au sculpteur, il n'y aurait pas eu de statue. Donc on peut dire que la statue, elle répond à une cause finale qui est la commande de Phidias à Praxitèle. Aristote ajoute une chose importante, c'est que la cause finale, elle est première dans l'intention. Phidias voulait une statue. Il la commande à Praxitèle, mais elle est dernière en exécution. C'est-à-dire que c'est vraiment à la fin du fin, quand la statue est finie, que cette cause a trouvé sa réponse, son accomplissement. Voilà, c'est tout simple. Non ? Ça vous va ? Ça met en forme, hein ? Je vois que ça vous met en forme. Et puisque vous êtes en forme, on va attaquer une deuxième notion. Une deuxième notion qui sont liées à l'être. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Ça se passe à New York. Un soir, 18 heures en hiver, il fait nuit. Tous les magasins ferment. On est sur Park Avenue. Une très belle limousine blanche s'arrête. Une superbe star sort de cette voiture. Elle est en manteau de fourrure. C'est une très grande star, très connue. Et elle rentre dans cette boutique. Si je vous disais le numéro, vous auriez deviné, c'est chez Pierre Cardin. La boutique est en train de fermer puisqu'il est 18 heures. On a déjà enlevé de la boutique tous les diamants, toutes les parures, tous les chapeaux, et elle rentre. Et elle arrive et elle dit, j'ai ce soir un gala et je n'ai pas de chapeau. Alors, elle ouvre la porte, elle rentre et par chance, c'est Pierre Cardin lui-même qui est là, qui dit, madame, vous voyez, tout est parti, mais je peux faire quelque chose pour vous. Il va prendre dans un placard un ruban. Il s'approche d'elle et lui entoure la tête avec son ruban. Il prend une épingle, plante dans le ruban et lui dit « Regardez ». Elle se regarde dans la glace, elle n'a jamais été si belle. Il lui a fait une coiffe, une parure, elle en est éblouie et elle se dit véritablement ce soir, je serai la reine, je serai la star, je vais briller. Elle est ravie, elle lui dit, écoutez, formidable, je pars avec, combien est-ce que je vous dois? Et là, Pierre Cardin lui dit, 10 000 $. 10 000 $, même si le dollar a baissé, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors là, elle a un petit mouvement, elle dit, attendez, un ruban et une épingle, 10 000 $? Pierre Cardin lui dit, madame, aucun problème. Il retire l'épingle, prend le ruban, va chercher une boîte à chapeau, pose le ruban et l'épingle dans une grande boîte à chapeau et lui donne la boîte avec le ruban et l'épingle à l'intérieur. Et lui dit, ça c'est cadeau de la maison. Cette petite histoire, elle nous fait comprendre ce que c'est que la cause formelle, ce que c'est que la forme, et que l'être d'une chose, c'est une matière et c'est une forme. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons tendance à ramener l'être à la matière, sans voir la forme, sans considérer que la forme est une valeur. Pour nous, au XXIe siècle, qui sommes des gens intelligents, ce qui a de la valeur, c'est ce qui est matériel, c'est la matière. Nous ne donnons pas de prix à la forme. Alors je vois déjà que vous vous dites, je vois bien où il veut en venir, et par analogie, vous vous dites, par exemple, la vision de l'homme. Est-ce que l'homme, c'est simplement un ensemble de réactions physico-chimiques, comme le dit Harari dans son bouquin Homo Deus? Est-ce que l'homme n'est simplement qu'une matière? Vous voyez que c'est une pensée unique qu'il n'est pas si évident de contredire. Et dans l'introduction du Père et dans celle d'Henri, on a vu que nous avons une vision de l'homme qui est un être avec une vocation surnaturelle. La forme de l'homme, c'est d'avoir une âme immortelle, d'être appelé à une vie éternelle. Effectivement, c'est difficile à voir. On a beau être une star, on a beau être une grande actrice, on ne voit pas la valeur de l'âme. On voit simplement le ruban et l'épingle. Est-ce que le prix de la vie, c'est le ruban et l'épingle? Ou est-ce que c'est plus que ça? Avec un ruban, une épingle, on peut faire ce qu'on veut? Ben oui. Mais on a perdu la forme du chapeau, on a perdu la forme de l'être, on a perdu la forme de l'homme. Troisième notion très importante par rapport à notre époque et qui permet de comprendre la notion dite du progressisme et du conservatisme. C'est la notion de puissance et d'acte. C'est une deuxième dimension de l'aspect de l'être. Puissance et acte. Cette notion, introduite à nouveau par Aristote, nous permet de répondre à la question, est-ce que le petit bébé qui est là, qui deviendra cette grande personne dans 40 ans, entre ces deux êtres, est-ce que c'est le même être? Est-ce que c'est le petit Jean qui vient de naître, qui sera le grand Jean appelé à être le directeur de l'entreprise? Est-ce que c'est le petit Jean qui vient de naître, qui sera le grand Jean médecin chez qui j'irai dans quelques années? Est-ce que c'est le même être? Est-ce que c'est la même personne? Il y en a qui disent oui, mais il y en a qui disent, mais non, pas du tout. Dans un cas, c'est un enfant qui mesure 51 cm, 3,2 kg, tour de tête, etc. Dans l'autre cas, c'est un monsieur de 1m81, 90 kg. Nous voyons que ce que les philosophes appellent les accidents, les apparences, sont différentes. Ils nous disent, mais est-ce que c'est le même être? Les matérialistes avaient beaucoup de mal à comprendre cette notion. Il y avait un dénommé Politzer qui était le grand éducateur du Parti communiste. Il disait, vous avez une paire de chaussures, je change la semelle, puis je change les lanières de cuir qui font la couverture. Est-ce que c'est toujours la même chaussure? Est-ce que c'est le même être? Vous voyez que quand on s'intéresse à une personne, est-ce qu'entre l'ovocyte qui vient d'être fécondé et le premier embryon et la personne qui sera... Est-ce que c'est le même être? Vous répondez oui. Pourquoi? Parce que vous avez, comme le propose Aristote, vu qu'il y a deux notions de l'être. Une notion d'être en puissance et d'être en acte. Le petit Jean, il est en puissance le grand Jean. Vous voyez, il est potentiellement le grand Jean. Il sera Jean. Et nous sommes capables, avec notre intelligence, de vous dire que c'est le même être qui va avoir une histoire. Donc cette notion d'être en puissance, d'être en acte, vous voyez, le grand Jean, il est en acte le petit Jean. Cette notion d'être en puissance et d'être en acte, elle est très importante pour comprendre notre époque et pour comprendre qu'il y a des valeurs permanentes, même s'il y a des choses qui changent. Et que l'homme, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il a un smartphone que ce n'est plus le même être, la même personne. Par contre, il va garder la même forme et la même cause finale. Alors on arrive à la quatrième notion, la notion de la colonne A. Vous avez déjà entendu parler de ça, la colonne A? Quand on travaille dans les entreprises et qu'on s'intéresse à la concurrence, on va prendre un cas, puisqu'on est à Toulouse. Air France commande des avions. Ils vont faire un cahier des charges. Qu'est-ce qu'ils choisissent de mettre dans la première colonne? Les spécificités d'Airbus ou celles de Boeing? Le commercial d'Airbus va tout faire pour que Air France mette d'abord les caractéristiques de l'avion Airbus, pour forcer Boeing à se positionner par rapport à Airbus. Le commercial de Boeing, il va tout faire en amont pour que Air France mette en tête, en première colonne, en colonne A, les caractéristiques de Boeing, pour que Airbus ait à positionner ses fonctionnalités et ses avantages par rapport à Airbus. On considère qu'il y a toujours un avantage à la colonne A. D'accord? On l'a vu dans le téléphone, quand c'est Orange qui avait tout. Les autres, un jour, ont dû inventer une manière de devenir la colonne A, la référence. Quand Bouygues a inventé le forfait téléphonique mobile, il est passé en colonne A. Il a obligé Orange, SFR, etc., les autres, à ne plus compter les minutes pour les mobiles et à passer au forfait. Donc, dans la vie, tenir la colonne A, c'est essentiel quand on veut que les gens adhèrent à vos positions et agissent en conséquence. Alors, je vous ai fait un petit tableau. Là, vous avez Dupont en colonne A. Et puis, à côté, vous avez Durand en colonne A. Et là, on voit, même si c'est peut-être un peu abstrait pour certains, on voit que Dupont en colonne A, il a quatre cases, d'accord, et l'autre en colonne B, il n'en a que trois. Donc, A va l'emporter sur B. C'est un schéma, d'accord. Par contre, si c'est Durand qui est en colonne A, vous voyez que Durand, lui, il n'avait rien en 1. Il n'avait rien du tout. Mais il avait 1,5, où il était très bon, qui n'était pas dans le premier tableau. Si je prends la deuxième option, ça redonne une chance à Durand. Alors, pourquoi je vous ai raconté ça? Les chrétiens en Europe ont été en colonne A. Toute la vision de l'homme, la vision de la société, la vision de ce qui était bon pour l'homme, la vision des finalités de l'homme, la manière de s'organiser, c'était une vision chrétienne. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où on nous a mis en colonne A un truc inventé que les Américains appellent la sécularisation. Vous avez entendu parler de cette notion ? La sécularisation de la société, c'est-à-dire une société sans Dieu. Dans la vision chrétienne, on va dire que c'est celle de Dupont, en première ligne, il y avait « Dieu est la finalité de l'homme ». Les visions matérialistes n'ont rien à proposer en concurrence avec cette proposition. Donc, ils ont été perdus. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ? Ils ont réussi à nous emmener sur un deuxième tableau, qui est celui de Durand. On a enlevé la première ligne et on compare les suivantes. Et là, ils disent, mais là, on est très bon. Je vais essayer de le montrer ensuite, mais la vision chrétienne de la société était fondée sur la charité. Ils sont arrivés avec liberté, égalité, fraternité. C'est super. Mais c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins bien que la charité. Et il est évident que la charité, c'est beaucoup plus grand que liberté, égalité, fraternité. Il est évident qu'on est dans une société complètement réduite si les valeurs de référence, c'est simplement liberté, égalité, fraternité. Et c'est pour ça que les chrétiens sont si mal à l'aise pour intervenir dans la vie sociale, dans la vie politique, ou que souvent on se dit « mon point de vue n'est pas celui de mon voisin que je retrouve le matin à la machine à café ». Nous sommes presque plus à l'aise pour défendre avec des arguments ou pour dire nous-mêmes ce que pensent des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec nous, qui pensent que tout est matériel, par exemple. On est plus à l'aise pour dire ça que pour expliquer que la finalité de l'homme est spirituelle. On nous a imposé une colonne A dans laquelle on a enlevé un certain nombre de priorités, de valeurs qui étaient fondamentales. Et nous, on se débat en disant « Ben oui, mais la charité, ça vaut l'égalité, ça vaut la fraternité. » Mais non, il y a des catholiques qui ont essayé d'expliquer ça au XIXe siècle. Il n'en reste plus rien. Il y en a qui ont essayé de le faire au XXe siècle. Il n'en reste plus rien. Parce qu'être catholique, si c'est simplement liberté, égalité, fraternité, ben tout va bien, il suffit d'être républicain. On a bien conscience qu'être chrétien, c'est beaucoup plus que ça. Suivre Jésus-Christ, avoir la forme de Jésus-Christ, c'est beaucoup plus que ça. Le chapeau, il a été réduit à une rubrique ruban, une rubrique épingle. Il n'y a plus le chapeau. Enlever la forme, il reste quelque chose qui est cadeau de la maison. Garder la forme, ah, vous avez tout le génie du Créateur qui vaut 10 000 dollars, beaucoup plus que le prix du ruban et de l'épingle. Ça va ? Alors là, on vient de faire de la métaphysique. On vous a peut-être dit que c'était difficile. Il faut savoir qu'un enfant de 4 ans est capable de faire de la métaphysique. Quand votre petit-fils ou votre fils, quand il va chez sa grand-mère qui a un chien noir, et quand il vient ensuite à l'école et qu'il voit le chien du gardien qui est blanc, et quand il dit « wa wa », et qu'il sait que c'est un chien, c'est un métaphysicien. Eh oui. Il a vu, ils ne se ressemblent pas du tout, ces deux chiens. Les apparences, ce qu'il voit avec les sens, pas du tout. Avec son intelligence, il a compris que c'était un chien, et pas un chat. Et il ne faut pas lui faire. Donc, enfant de 4 ans, une des ruses des antichrétiens, c'est de nous avoir fait renoncer à une des premières lignes de l'intelligence qui était la métaphysique, pour nous dire « n'existe que ce que tu peux sentir avec tes sens, pas ce que tu peux comprendre avec ton intelligence ». On nous a ramenés aux capacités d'un animal. On a réduit nos capacités de compréhension des choses. Est-ce que vous trouvez intelligent que les catholiques acceptent cette réduction intellectuelle? Ceux qui peuvent libérer la raison, ce n'est pas ceux qui réduisent la raison au sens. Je vous ai chargé le sac à dos. D'accord ? Léger. Simple. On va l'appliquer maintenant. La finalité de l'homme. Finalité de l'homme, être heureux. Alors ça, c'était le point de vue des anciens. Ce sont ceux qui considéraient que le but de la vie, la finalité, c'était le bonheur. Et on a réfléchi à ça. Je vous encourage à lire, parce que c'est un vrai délice, les dialogues de saint Augustin dans la collection de la Pléiade, c'est dans le même ouvrage, dans le même tome que les Confessions. Ce sont des discussions très libres de saint Augustin avec ses amis, où ils prennent des questions. Et puis il y a sainte Monique qui passe, ils sont à table, parce que la discussion est importante, alors ils ont décidé de faire ça autour d'un repas. Et il y a sainte Monique qui passe à table et qui intervient dans la discussion. Et puis il y a les amis, etc., qui parlent. C'est vivant, c'est vraiment mieux que les Marseillais. Je me dirais, c'est facile. Suffit-il d'avoir ce que l'on veut pour être heureux? Si c'est le bien que l'on veut et que l'on a, on est heureux. Mais si c'est le mal, on a beau l'avoir, on est malheureux. Nous sommes donc d'accord pour dire que nul ne peut être heureux s'il n'a pas ce qu'il désire et qu'il ne suffit pas d'avoir ce que l'on désire pour être heureux. Vous êtes d'accord? Alors ça continue ensuite en disant, si quelqu'un a décidé d'être heureux, il doit se procurer ce qui subsiste, toujours, et ne peut être arraché par aucun déchaînement de la fortune. Conclusion, je vous ai enlevé beaucoup d'étapes du dialogue, c'est Dieu qu'il faut posséder pour être heureux. Voilà l'argumentation de saint Augustin, vous voyez, qui est véritablement une argumentation rationnelle. D'accord ? L'homme ne trouvera réponse à ses désirs qui sont infinis que s'il possède Dieu. Pour saint Thomas, la forme de la créature qui est sa nature est porteuse de son ordre au bien qui est sa fin. Alors ça, je vous l'ai mis parce que les formules de saint Thomas sont tellement denses qu'on se dit c'est génial, je voudrais avoir compris ce qu'il dit. Et donc ça vaut la peine de le lire, de le relire, de le macérer. On pourra vous envoyer les citations si vous voulez. Il convient de considérer en premier lieu la fin de la vie humaine, et ensuite, ce pourquoi l'homme peut parvenir à cette fin ou s'en écarter. La fin, en effet, fournit les raisons de ce qui lui est donné. Si nous comprenons la finalité de l'homme, nous allons comprendre l'homme. Voilà ce que nous dit saint Thomas. Et ensuite, il nous dit que la loi naturelle n'est rien d'autre que l'expression de ce que nous sommes profondément. Elle est en quelque sorte le mode d'emploi de notre être, la notice de notre bonheur. La loi, c'est la notice du bonheur. S'il y a une loi, c'est pour le bonheur de l'homme. Si Dieu a promulgué une loi au Sinaï, c'est pour le bonheur des hommes. Je vous le dis comme ça, il est probable que vous soyez peut-être d'accord avec moi. Quand on vous dit « Est-ce que vous aimez Dieu ?» On est un petit peu, on ne sait pas en fait. Est-ce que Dieu nous aime? Oui, en majorité. Et maintenant, si je vous dis, est-ce que la volonté de Dieu sur vous est pour votre bonheur? Plus difficile. Parce qu'avec le coup de la colonne A, comme on nous a convaincus que ce qui comptait, c'était de faire ce qu'on veut, si je ne veux pas la même chose que ce que Dieu veut, est-ce que ce que Dieu veut, c'est mon bonheur? Et pourtant, nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Nous ne devrions jamais laisser passer cette chose dans les discussions. Quand c'est la volonté de Dieu, c'est que c'est notre bien. Est-ce que nous sommes convaincus de ça? C'est pour ça que le péché, c'est une faute contre la nature et la raison, nous dit le catéchisme. Et c'est donc une offense à Dieu. Parce que ce qui offense à Dieu, c'est quand l'homme fait quelque chose qui n'est pas pour son bien, pour le bien de l'homme. J'insiste là-dessus parce que si la finalité de l'homme, c'est d'être uni à Dieu, il est important de comprendre que la volonté de Dieu pour nous est un grand bien. Et donc, il ne faut pas se laisser opposer la volonté de Dieu à notre volonté. Nous cherchons à vouloir ce que Dieu veut. C'est pour être heureux, il faut faire ça. Si on ne cherche pas à faire ce que Dieu veut pour nous, nous ne pouvons pas être heureux. Nous ne pouvons pas être accomplis. Vous voyez, par rapport à la pensée du monde, et le corner dans lequel on nous a mis en tant que chrétiens, comme si nous étions des coincés, rigoristes, jansénistes, vous savez, tous les mots qu'on trouve, pour en gros considérer que nous sacrifions notre liberté, notre volonté à obéir à un Dieu jaloux, vengeur, et là aussi on est capable de nous citer la Bible. Non. Nous, nous sommes pour la liberté des enfants de Dieu, et la liberté des enfants de Dieu qui sont disposés par Dieu à aimer ce qui est pour leur bien. Dieu nous a créés avec des inclinations en vue du bien. En vue du bien. Alors, il y a un combat des passions, etc. L'année dernière, on en a parlé. Mais c'est très important de voir cet ordre qui existe dans l'homme par rapport à ses finalités. À l'opposé, quelle est la vision, on a vu celle de saint Augustin, qui reprenait celle d'Aristote et celle de saint Thomas. À l'opposé, il y a cette vision de la modernité qu'on trouve avec Sartre. Et là, je vous ai mis quelques citations. Vous voyez, Sartre dit « Il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. » Dans la colonne, lui, il a dit « Il n'y a pas de Dieu, c'est un avion sans Dieu. » L'option Dieu n'existe pas dans cet avion. C'est une société sécularisée. C'est une société sans Dieu. Et pourquoi elle est sans Dieu? Parce que Dieu n'existe pas. Est-ce que c'est démontré? Non. Sartre ne l'a jamais démontré. D'ailleurs, personne ne l'a jamais démontré, que Dieu n'existait pas. Et nous, nous acceptons tous les jours de vivre dans une société comme si Dieu n'existait pas. Et Sartre, vous voyez, est très... très direct, il dit « L'homme est d'abord un projet, en conséquence, puisqu'il n'y a pas de nature humaine, qui se vit subjectivement au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. Rien n'existe préalablement à ce projet, il n'y a pas de créateur, rien n'est au ciel intelligible, et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Il n'y a aucune intelligence du bien voulu par Dieu. Non seulement il n'y a pas de Dieu, mais il n'y a pas de plan de Dieu pour l'homme. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. C'est ce qu'avait dit Dostoïevski dans un roman qui est repris par Sartre pour dire, ben oui, et nous nous disons, si Dieu n'existe pas, eh bien, tout est permis et ça change tout. Et il dit, quand on a fait la Révolution française, quand les athées ont imposé le modèle d'une société sans Dieu au moment de la Révolution, et puis des lois, etc., on a demandé aux moralistes de bricoler une morale humaine pour que ça arrange et tout. Et dit, mais nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et donc, il n'y a aucun fondement à une morale républicaine. Kant au lit. Kant, nous ne voulons pas de Kant. Bienheureux mai 68 qui nous a libérés de Kant et de la morale d'obligation. La morale du devoir. Ben, c'est normal, on avait perdu le principe qui est que Dieu nous aime. On essaye de faire une morale qui est une espèce d'éthique d'obligation sans raison et inintelligible. Il est normal qu'un jour, les gens disent « Mais c'est complètement idiot, ce truc-là. Pourquoi c'est interdit ?» On a retrouvé, au jardin d'Éden, l'interrogation si je refuse la volonté de Dieu en voulant de l'arbre défendu, eh bien, j'ai fait ce que j'ai voulu, mais l'homme a perdu son état de perfection dans lequel il était. Et alors la conclusion de Sartre, parce que non seulement il raisonne comme ça, mais voilà ce qu'il nous propose en colonne A, ligne 1. Le mot d'absurdité naît à présent sous ma plume. L'absurdité, ce n'était pas une idée dans ma tête ni un souffle de voix, mais ce long serpent mort à mes pieds. Je comprenais que j'avais trouvé la clé de l'existence, la clé de mes nausées, de ma propre vie. De fait, tout ce que j'ai pu saisir ensuite se ramène à cette absurdité fondamentale. Voilà ce que la modernité nous met en colonne A, ligne 1. Le fondement de la compréhension du monde, c'est l'absurdité. C'est normal que ça nous mette mal à l'aise. Alors maintenant, si on dit quelle est la proposition catholique sur la finalité de l'homme, vous avez entendu parler du pape François. Le pape François, il est jésuite. Le fondateur des jésuites, c'est qui ? Saint Ignace de Loyola. Alors Saint Ignace de Loyola, au début des exercices spirituels qu'il propose de faire, eh bien, il a un chapitre, le numéro 23, où il a décrit en deux phrases quelle était la finalité de l'homme, de manière très pratique, un peu comme le ferait le pape François. On a quitté la métaphysique, là c'est go. Qu'est-ce qu'il nous dit ? L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen obtenir la vie éternelle. Colonne A, ligne 1. Et donc on arrive maintenant à l'ordre social. Et Saint Ignace nous donne la clé en continuant, vous voyez, le texte, il dit « Et toutes les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. » Voilà le principe et fondement pour organiser la vie sociale. Dans la famille, exercer la prudence, c'est autant que, pas plus que, l'usage des biens de la famille pour permettre à la personne d'honorer, louer, servir Dieu et par là obtenir la vie éternelle. Au travail, même chose. Dans la nation, même chose. Dans une association, même chose. Tout ce qui est créé nous est donné pour obtenir cette fin. L'ordre, les gens n'aiment pas l'ordre, mais l'ordre, c'est la beauté d'avoir les moyens ordonnés à la fin. La plénitude de la forme. L'ordre. Normalement, quand on voit une belle famille, on dit, mais si ça, c'est formidable, c'est bien ordonné. Entre la richesse et la pauvreté, entre l'étude et le jeu, entre la rigolade et le sérieux, on voit qu'il y a un ordre. C'est bien ordonné pour que chacun puisse honorer, louer, servir Dieu. Répondre à sa fin, parce que nous sommes capables de voir quelle est la forme de l'homme, quelle est sa finalité. Le pape Pie XII avait une formule très simple pour nous convaincre. Il dit « De la forme donnée à la société dépend le bien ou le mal des âmes. » Il y a des sociétés, des situations en société, eh bien, qui nous empêche de faire le bien. Jean-Paul II, lui, a appelé ça les structures de péché. C'est-à-dire des situations dans lequel il est héroïque de réussir à faire le bien. Et les structures de péché, ça peut arriver dans la famille, bien sûr, mais ça peut arriver au travail. Le plan de commissionnement des commerciaux dans une société, ça peut mettre les gens en situation héroïque de ne pas mentir pour faire une affaire à tout prix, pour fourguer entre Noël et le jour de l'an un produit à quelqu'un, un produit qui n'est pas bien fait, qui ne répond pas aux spécifications, mais parce qu'on aura une prime supplémentaire si on vend entre Noël et le jour de l'an. Celui qui fait le règlement qui dit entre Noël et le jour de l'an, je double les commissions, il promeut une règle du jeu qui rend héroïque le fait de ne pas aller le faire. Pour encourager, bien sûr, on comprend bien l'intention du type qu'il fait, mais vous voyez, ça peut mettre les gens en situation difficile. Donc, je dis cela parce que souvent, les structures de péché, on voit uniquement certaines questions de morale familiale. Mais dans le travail, un chef d'équipe peut être responsable d'une structure de péché. Des parents peuvent mettre leur enfant dans une situation où la forme, par exemple, l'ambiance qu'ils mettent dans la famille, un exemple classique, c'est l'anniversaire de Pierre. Son père, qui est terriblement pris parce qu'il travaille chez Airbus, qu'il est toujours en voyage, est revenu, lui a offert un vélo. Le lendemain, Pierre va en classe et il se fait casser le phare avant. Il revient, il dit à son père, j'ai cassé le phare avant. Il se prend une rouste de son père qui lui dit, tu vois, ton père se défonce, j'ai plus de vie, je bosse et le peu d'argent qu'on a, tu le claques. Et le vélo, tu n'es pas foutu de t'en occuper. Le lendemain, l'enfant va à l'école. Là, on lui enlève les deux phares. Il revient et il dit à son père, « Papa, on m'a volé mon vélo. » Si celui qui m'aime, je ne peux pas lui dire la vérité parce que je vais me prendre une rouste, m'a poussé à mentir. Et là, le père lui dit, bah, « Attends, c'est pas grave, je vais t'en acheter un autre. » Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il vaut mieux mentir que dire la vérité. Et ça, c'est nous. On ne parle pas de choses qui sont très loin. C'est dans l'organisation de la société. C'est dans les lois, dans l'ambiance que l'on met à table, etc. etc. Bon. C'est pour ça que les gens qui disent que l'Évangile n'est pas une bonne nouvelle, on a une colonne A qui est tellement belle qu'il suffit de l'annoncer, quoi. Si les gens la connaissaient, ils voudraient tous la colonne A de Jésus-Christ. Alors, la vie en société. La vie en société, c'est une nécessité. Et ça, c'est très important parce que nous sommes pétris d'une autre idée qu'on nous a mis dans la tête, qui est une idée fausse, c'est que la société était une option et qu'on pouvait choisir par contrat d'y être ou de ne pas y être. Je choisis ma famille. Ben non, l'enfant ne choisit pas sa famille. D'accord ? Bien qu'on se demande si un jour ça ne pourrait pas arriver, je me demande comment, mais bon. D'accord ? On nous fait croire, est-ce qu'on choisit son pays ? Ben non, on est dans son pays. Donc on a poussé l'idée du contrat partout. Non, la société est une nécessité. Nous avons besoin des autres. Et il y a des grandes différences dans la société, des grandes différences entre les personnes. Eh bien, cette inégalité, j'emploie volontairement le mot inégalité entre les personnes dans la société. Je corrige, je dis les différences entre les personnes, eh bien, font partie du plan de Dieu qui veut que chacun reçoive d'autrui ce dont il a besoin. Et ceux qui disposent de talents particuliers en communiquent les bienfaits à ceux qui en ont besoin. Les différences encouragent et souvent obligent les personnes à la magnanimité. Nous sommes, les différences dans la société sont faites pour nous appeler à la magnanimité, à la grandeur dans le don, au fait de ne pas compter, au fait de donner gratuitement. ce que souvent nous avons reçu gratuitement. Notez bien ce numéro du catéchisme de l'Église catholique, CEC 1937. 1937, c'est facile à retenir, il y a 36-37, vous voyez, c'est le Front populaire. Donc vous en souviendrez de ce numéro du catéchisme. Bon, vous allez voir, c'est un petit texte de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne qui a des dialogues avec Jésus. Et Jésus qui lui dit, alors ce texte-là, il est banni de la colonne A aujourd'hui. On le lit. « Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun. Et quant aux biens temporels, pour les biens nécessaires à la vie humaine, je les ai distribués avec la plus grande inégalité. Et je n'ai pas voulu que chacun possédât tout ce qui lui était nécessaire, pour que les hommes aient ainsi l'occasion, par nécessité, de pratiquer la charité les uns envers les autres. J'ai voulu qu'ils eussent besoin les uns des autres et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et des libéralités qu'ils ont reçues de moi. L'inégalité dans la société, elle est voulue par Dieu pour que la charité soit nécessaire. Je pense que ça nous choque tous, non ? Quand on y pense, par rapport à la colonne A qu'on nous a mis dans la tête, de l'égalité, non. On est tous différents, mais ce que l'on a, on le doit. Et vous voyez, ce que l'on a, on le doit, c'était le principe de la comptabilité. C'est pour ça que le capital est au débit. Il doit. Dans une société, une civilisation chrétienne. Nous avons encore les marques de ça, vous voyez. Le capital, je le dois. Ce que j'ai reçu gratuitement, je le dois. Et donc, on a un regard sur l'égalité qui n'est pas du tout la même. Alors, la conclusion, on a vu la finalité, on a vu la société, on a vu ces principes de vie en société. Voilà. La conclusion, c'est le royaume. On est appelé à vivre dans le royaume. On doit garder en mémoire que le royaume concerne les personnes humaines, la société, le monde entier. Travailler pour le royaume signifie reconnaître et favoriser le dynamisme divin qui est présent dans l'histoire humaine et la transforme. Construire le royaume signifie travailler pour la libération du mal dans toutes ses formes. En un mot, le royaume de Dieu est la manifestation et la réalisation de son dessein de salut dans sa plénitude. Nous sommes tous appelés au salut dans la plénitude. Pas un petit salut, un salut en plénitude. L'homme est fait pour être comblé. Et c'est pour ça que nous avons ces désirs infinis. Jamais satisfaits par les choses matérielles. Jamais un ruban, une épingle ne pourront contenter le cœur de l'homme. Nous avons besoin du chapeau, nous avons besoin de la coiffe, nous avons besoin de la finalité. Jean-Paul II résume ça en disant « La destinée extraordinaire de l'homme, appelée à la dignité de fils adoptif de Dieu, il accueille cette vocation dans la foi et il s'engage dans l'édification du règne, où l'histoire du genre humain sur la terre trouvera son point définitif. » Alors j'ai encore une conclusion. Je vous ai parlé de ceux qui, en colonne A, avaient dit « il faut vivre comme si Dieu n'existait pas » et qui nous imposent toutes les discussions que nous avons sur les lois, sur la vie en société, sur l'organisation du monde, qui nous imposent de penser le monde comme si Dieu n'existait pas. Eh bien, Benoît XVI retourne la proposition. Et je pense que nous, chacun, nous devons prendre cette proposition de Benoît XVI et dire aux gens, celui pour qui l'existence de Dieu, le monde de la foi, ceux qui, comme saint Thomas, disent « je veux voir pour croire », semble obscur, devrait vivre dans la pratique, vivre comme si Dieu existait vraiment. L'hypothèse à prendre pour la colonne A, c'est pas que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu existe. Alors la finalité de l'homme peut être comprise. Alors l'ordre social a un sens. Alors tout n'est pas arbitraire, lutte, force, conquête, pouvoir. Mais nous rentrons dans l'ordre de la charité. Mettre Jésus en colonne A, voilà ma proposition en conclusion de cette première séance. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur.